quels sous-textes celles-ci peuvent-elles révéler? C'est le sujet de ce nouvel épisode du Quatrième Mur pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Philippe Corcuff. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, les champs d'études que tu étudies, on pourrait dire, sont la sociologie et la philosophie politique. Tu es professeur des universités en sciences politiques à l'IEP de Lyon.
Oui.
Tu es par ailleurs auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier au titre tout à fait explicite, La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, paru en 2021 aux éditions textuelles.
C'est ça.
Alors, je le disais, tu te consacres à beaucoup de champs d'études, notamment dans la sociologie, la philosophie politique, puisque tu as eu un parcours assez riche. Tu étudies, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu écris. Le sujet qu'on va aborder principalement aujourd'hui, c'est le travail que tu consacres aux cultures populaires, que tu préfères d'ailleurs nommer culture ordinaire, et le rôle que celles-ci peuvent avoir dans une pensée et une démarche d'émancipation. Donc, tout d'abord, finalement, en quoi les cultures, ce que tu nommes les cultures ordinaires, peuvent-elles, d'ailleurs, d'abord, quelles sont-elles, et en quoi peuvent-elles nous aider à penser et à envisager cette émancipation?
Tout d'abord, ce parcours, il a d'abord commencé comme enseignant, c'est-à-dire, il y a une quinzaine d'années, j'ai ouvert un cours à Sciences Po Lyon sur philosophie, sciences sociales et cinéma. Et ce cours, il y a 3-4 ans, a été remplacé par un cours série télévisée sciences sociales et cinéma. Donc c'est à partir du cours que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc avec mes étudiants, je me suis aperçu d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé. Évidemment, je m'intéressais aux séries, mais je me suis aperçu que la cinéphilie étudiante était moins importante et que l'accroche sur les séries était plus évidente.
La sériephilie avait un peu remplacé la cinéphilie, peut-être.
Oui, que j'avais connu d'abord moi-même en tant qu'étudiant, puis les premières années où j'étais enseignant. Voilà, on m'avait demandé pour une revue de philosophie de faire un texte sur les chansons d'Eddie Mitchell. J'avais commencé, donc c'était un autre aspect sur les chansons. Et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé. Puis j'en suis venu à faire soit des textes de recherche, soit des textes de presse. Ça dépend, il y a des différentes formes. Ça s'est construit au départ contre une tendance forte à l'université et dans ce qu'on appelle la pensée critique, qui est de dénigrer les cultures ordinaires. Puisqu'on va souvent les présenter comme un support de l'aliénation, de la propagande, etc. Donc, c'est déjà présent dans des figures très importantes de la théorie critique, l'école de Francfort, Théodore Adorno, Max Horkheimer. Dans leur livre de 1944, La dialectique de la raison, il y a un chapitre sur les industries culturelles qui va dans ce sens et qui a beaucoup eu un rôle important dans la pensée critique.
Même avant ça, il me semble que Walter Benjamin, il était déjà, quand il parlait de l'art à l'heure de la reproductibilité technique, il me semble que c'était déjà dans cette tendance-là.
Oui, mais moins dénonciateur quand même. Là, vraiment,
moins critique qu'Adorno.
Voilà, chez Adorno et Horkheimer, c'est vraiment l'idée que c'est un lieu d'abrutissement. Et les comédies américaines des années 30, parce que là, ils sont dans leur exil américain à la fin des années 30. Les comédies américaines type Ernst Lubitsch, qui aujourd'hui sont considérées comme le sommet de la cinéphilie, sont considérées comme le sommet de la dégradation. Donc, et puis, il y a aussi les textes de Adorno contre le jazz, comme dégradation de la musique. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dit du rap, etc. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc c'est rentré quand même, et c'est rentré jusqu'à la pensée critique plus ordinaire, puisque c'est ce que j'appelle la pensée monde diplo, du mensuel Le Monde Diplomatique, c'est-à-dire cette dénonciation de les médias comme lieu principal d'abrutissement des gens, avec des gens comme les rédacteurs du Monde Diplomatique qui vont enlever de la tête des gens les mauvaises idées pour mettre les bonnes. Voilà. Et alors c'est contre cette vision assez élitiste, paternaliste, qui plutôt heurtait ma sensibilité libertaire, que peu à peu j'ai construit une autre vision de ces cultures populaires que j'ai appelées cultures ordinaires. Je les appelle cultures ordinaires parce qu'elles ne touchent pas seulement au sens sociologique les classes populaires, ouvriers, employés, Elle touche aussi les couches moyennes, les couches supérieures. Leur particularité, c'est de circuler dans les conversations ordinaires, devant la machine à café, dans les bureaux, mais entre amis, dans la famille, aujourd'hui sur... dans les échanges Facebook, etc.
C'est
donc
des,
il y a une circulation.
Cultures du quotidien, on pourrait dire.
Il y a une circulation dans la vie ordinaire, dans les conversations ordinaires, de ça qui devient un support. Et la série avec le système des épisodes, des saisons, même si aujourd'hui avec les plateformes, on peut se faire en une soirée l'ensemble d'une saison. Donc, disons que ça c'était plutôt adapté à cette circulation dans les conversations ordinaires. Donc, pourquoi ça peut être intéressant ? Ben, contre la pensée monde diplôme, je me suis aperçu que, évidemment, dans les séries, dans les chansons, dans les films, évidemment, il y a des stéréotypes qui se reproduisent, comme dans beaucoup de choses de la vie sociale. Et des stéréotypes, il y en a dans le monde diplomatique aussi, quand on pense que les gens sont abrutis par TF1, qu'ils n'ont rien dans le cerveau. Donc ça, c'est un stéréotype aussi.
Il y avait eu un papier du monde diplôme qui était resté fameux, c'était sur les sitcoms AB Productions.
Voilà.
De Serge Halimi, il me semble.
Donc, y a des stéréotypes. Donc, il y a des stéréotypes sexistes, racistes, xénophobes, de classe, avec une vision parfois des classes populaires comme justement particulièrement abrutie. Bon, dans les films, les chansons, les séries. Mais les séries, les chansons, les films les plus intéressants, c'est qu'elles sont un composé entre la reconduction de stéréotypes qui donnent leur familiarité, parce que s'il y avait une rupture totale avec les stéréotypes, par exemple dans un art d'avant-garde, ça casserait la familiarité avec un large public. Donc il y a bien des stéréotypes parce qu'il y a cette familiarité, mais la force, c'est de décaler sur une partie des questions, les stéréotypes et d'introduire des interrogations critiques.
C'est un peu une subversion des stéréotypes, on pourrait
voilà,
dire.
Voilà, avec une dimension hybride. Je pense que la grande série des années 2000, The Wire, sur écoute, qui est vraiment le sommet, à mon avis, des séries, qui a beaucoup suscité de commentaires, d'ailleurs.
Y compris de la part des universitaires.
Des universitaires, il y a eu des livres aux États-Unis, en France, etc. Bon. Comme précurseur de la pensée intersectionnelle, etc. On a par exemple le personnage d'Omar, qui est très intéressant parce qu'il ressemble au stéréotype du délinquant noir dans une ville majoritairement noire comme Baltimore. Et en même temps, il a deux particularités qui vont déplacer les choses. Il a un côté Robin des Bois parce qu'il ne vole que les dealers. Et deux, il est homosexuel dans un milieu de délinquants
assez
qui est machiste, viriliste et homophobe. Bon. Il est sans arrêt au but avec l'homophobie. Donc voilà, il y a des éléments de stéréotypes qui nous font reconnaître le personnage du délinquant noir dans un film ou une série américaine. Et puis, ça introduit un trouble intéressant. Ça fait réfléchir, ça décale. Et c'est là où s'ouvrent des éléments pour une pensée critique et émancipatrice plutôt qu'une simplement une reproduction de l'aliénation.
D'accord. Et oui, c'est ce que tu dis, les cultures populaires. Il y a des choses sur lesquelles tu as écrit. Donc, tu parlais du cinéma, des séries TV, des chansons. Tu as aussi plusieurs de tes écrits sont également consacrés au polar, au film noir, au récit noir de façon générale, peuvent nous aider à penser politiquement mieux que les dirigeants politiques, même radicaux. Donc en fait, l'idée, c'est aussi qu'à partir de ce moment-là, les cultures populaires deviennent un relais et peuvent mettre en avant une pensée qui n'est plus valorisée, y compris politiquement, ou qui est passée sous silence, peut-être.
Oui, prenons l'actualité. On a un président de la République assez médiocre, enfermé dans sa politique qui est plutôt une politique pro-business. Donc, il décide de rajouter 2 ans pour la retraite, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Il a passé de 60 à 62. Là, il passe de 62 à 64. Donc, on pèse sur les salariés plutôt que sur les revenus du capital. Bon, on a quelque chose de classique. On a une forme d'enfermement autoritaire. Mais que nous dit la pensée politique classique, les dirigeants politiques, hein ? Eh bien, on entend régime illibéral, donc on serait comme en Hongrie, on entend dictature, on entend que c'est déjà une forme fasciste. Donc, on entend n'importe quoi de la part des politiques à gauche, comme s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir une pensée nuancée. Bon. Et si on veut avoir une pensée nuancée, c'est le thème de ma troisième chronique, de la chronique que je commence sur le site de l'Obs. Si on regarde une série comme la quatrième saison de The Sinner, alors là, on a une grande subtilité quant à la façon de penser les fragilités sociales et socio-psychologiques des personnages. Et la nécessité d'un ressourcement spirituel, pas au sens religieux, mais au sens de redonner du sens et de la valeur à nos existences. Or, la gauche s'est déconnectée des classes populaires, elle s'est déconnectée aussi du spirituel au sens de notre quête individuelle et coopérative du sens et des valeurs. Elle s'est desséchée dans le technocratisme, dans la fétichisation du marché, dans la présidentialisation. Dans la professionnalisation politique, ce dessèchement, on aurait besoin, là, les séries, une série comme la quatrième saison de The Sinner, la première saison était déjà très forte, la quatrième saison qui est sur Netflix depuis quelques semaines est vraiment au même niveau que la première, et évidemment, il vaut mieux regarder The Sinner que d'écouter Mélenchon, François Ruffin, Anco, parce que là, c'est la catastrophe. Hein. C'est la chute de la pensée. Comme si, en fait, être radical, comme le dit Marx, être radical, c'est saisir les choses à la racine. Hein. Or, là, on ne saisit pas les choses à la racine. On fait du bruit en utilisant des mots qui sont de plus en plus gonflés. C'est une sorte de gonflement rhétorique. Hein. Bon, après dictature et fascisme, qu'est-ce qu'on pourra dire pour Macron ? Bon, alors, d'accord. Mais si on est confronté à un régime d'extrême droite, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors, on dit ultra-libéral pour Macron, c'est complètement idiot. Parce
qu'est-ce
que
qu'il
c'est
y a après l'ultra ?
Oui, c'est sans doute le président le moins... Il est néolibéral, oui, mais le moins néolibéral par rapport à Hollande, par rapport à Sarkozy, par rapport à Chirac et à Mitterrand. Pourquoi ? Parce que, malgré lui, avec le Covid, il a injecté des milliards dans l'économie d'argent public, pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les salaires hein, d'une série de personnes et le secteur de la culture aussi, etc. Donc, il a introduit des éléments keynésiens dans sa politique, malgré lui. Et donc, dire ultra-libéral, donc, si on avait une privatisation des retraites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on a en fait un choix qui vise à favoriser les revenus du capital sur ceux du travail, mais on n'a pas une privatisation pour l'instant. On pourrait dire quoi de l'ultra. Donc en fait, la radicalité pour ces politiciens de la gauche instituée, c'est faire du bruit et d'utiliser des mots de plus en plus forts. C'est en fait Twitter et CNews et BFM TV, c'est-à-dire le moins de pensée possible dans le plus rapidement possible. Bon, et ben en s'intéressant à la saison 4 de The Sinner, et puis je m'intéresse aussi dans la même chronique au livre qui vient de paraître d'un des maîtres du roman policier américain, Denis Lehane, l'auteur de Domestic River, de Gone Baby Gone, de Shutter Island, etc. Son livre s'appelle Le Silence. C'est sûr, il revient dans son quartier, parce qu'il est issu d'un quartier ouvrier blanc de Boston. Hein. Il revient dans ce quartier en 1974, où il y a une mesure de déségrégation raciale imposée, et il va voir enflammer son quartier pour des raisons racistes, hein, un quartier blanc ouvrier. Bon. Donc, et là, c'est beaucoup plus subtil, parce qu'il a une point de vue à la fois radicalement critique, et en même temps, comme il a vécu dans ce milieu, il a une vision compréhensive, tout en nuances, bon, par rapport aux personnes. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant que les Mélenchon, Ruffin, Anco.
Et oui, ce que tu dis à propos de Denis Lane, ça me rappelle aussi, puisque ce que je n'ai pas précisé au début de l'émission, c'est que tu parlais des chroniques que tu écris pour l'Obs, tu as également ton blog sur le site de Mediapart, et tu avais aussi écrit un article, c'était sur la thématique de l'intersectionnalité, notamment à propos du dernier film de James Gray, Armageddon Time, où il y avait, par rapport à ce que tu dis sur Denis Lane, cette notion aussi de la mémoire et du retour en arrière qui était assez présente, et cette façon d'ausculter l'époque aussi.
Oui, sur mon blog de Mediapart, j'ai un peu travaillé en tant que chercheur sur l'intersectionnalité, mais là, il se trouve que James Gray, c'est un cinéaste plutôt considéré comme le cinéma d'auteur. Là. Moi, je m'intéresse à des films parfois plus commerciaux, mais qui portent des choses intéressantes, et puis au cinéma d'auteur aussi. James Gray, c'est un grand cinéaste américain, et Armageddon Time est une réflexion. Il revient sur son enfance, lui aussi, et sur son enfance avec le lien entre un jeune juif dans la banlieue de New York avec un jeune noir, jeune juif de couche moyenne en ascension et jeune noir pauvre. Et puis, c'est un très intéressant film parce que d'une certaine façon, il va être amené à lâcher son copain. Et ce que nous montre le film, c'est que l'intersectionnalité, c'est tragique. C'est-à-dire que les logiques de discrimination, de race, et ça peut être l'antisémitisme ou la négrophobie, de classe, de genre, ne vont pas dans le même sens. Et donc, elles déchirent plutôt. Il y a toute une littérature militante, et même de politiciens, sur l'intersectionnalité, qui, au contraire, simplifie les choses. Intersectionnel, ça voudrait dire que tout va dans le même sens. Donc, c'est une sorte de vision bisounours.
Une idée de la convergence des luttes. Ce
voilà.
Serait sous cet
automatique, angle. Voilà. Avec l'idée que c'est le système. Mais justement, l'intersectionnalité casse l'idée de système. Puisque, justement, les formes de domination ne vont pas dans le même sens. Et ça pose la question comment on va créer une forme d'émancipation. Sur le site libertaire Grand Temple, que je co-anime aussi, on a publié récemment les résultats d'un séminaire libertaire auquel je participe qui s'appelle Étape, où on a réfléchi sur les questions stratégiques avec des gens qui ont des points de vue assez différents, et notamment quelqu'un qui n'est pas libertaire mais qui est un des principaux dirigeants de la 4e internationale et de la Ligue communiste révolutionnaire, François Sabado, pour réfléchir sur comment on passe de la société actuelle à une autre société. Hein, et se pose la question, si c'est plus comme chez Marx le prolétariat, le sujet révolutionnaire, quel est le sujet révolutionnaire? Moi, ma réponse, ce n'est pas la réponse de Sabado, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin de sujet révolutionnaire. Puisque si, d'un point de vue de classe, on est dominé, on peut être, d'un point de vue genre, dominant. Donc, il n'y a plus de sujet qui aurait des caractéristiques qui permettent...
Homogène.
Voilà, homogène. Et donc, en fait, c'est les convergences pratiques dans les luttes, mais à faire, pas quelque chose qui est donné par le système, plus le projet d'émancipation qui vont nouer les choses, mais pas l'idée d'un ensemble de personnes qui seraient dotées de caractéristiques comme on avait l'idée du prolétariat, par exemple, à une certaine époque. Donc, tout ça pour dire, voilà, c'est que Armageddon Time de James Gray, il amène même à faire progresser la pensée politique, les sciences sociales, etc., en posant de nouvelles questions. C'est la nouveauté de ce que je voudrais indiquer. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand j'ai commencé les premiers cours sur le cinéma à Sciences Po Lyon, je pense que j'avais une visée plutôt pédagogique par rapport aux étudiants, c'est-à-dire d'introduire des questions sociologiques et philosophiques à propos d'un matériau qui était plus familier que les auteurs classiques. Et puis, peu à peu, je me suis déplacé et j'ai inventé un nouveau cadre que j'ai emprunté en partie à un grand philosophe du XXe siècle qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, avec les notions de jeu de langage et jeu de connaissances. C'est-à-dire que c'est l'idée que le cinéma, la chanson, les séries sont des jeux de langage, c'est-à-dire des registres culturels associés à une certaine forme de pratique et d'activité, comme le dit Wittgenstein. La philosophie, les sciences sociales sont des jeux de connaissances, c'est-à-dire que ce n'est pas des jeux de langage particuliers, la fonction principale c'est produire de la connaissance. Et je vais essayer de faire un dialogue entre jeux de langage et jeux de connaissances, mais ça veut dire que la philosophie ou la sociologie va éclairer autrement un film ou une série ou une chanson, mais inversement, une série, une chanson, etc., vont apporter des éléments nouveaux, des pistes de réflexion à la sociologie, etc. Elles vont ouvrir l'imagination sociologique et philosophique. Donc, il s'agit
plus...
Voilà, c'est un dialogue. Il s'agit plus d'illustrer avec du cinéma ou des séries des concepts qui sont donnés par la sociologie ou la philosophie, mais le dialogue permet de apporter des choses dans les deux sens.
D'accord. Et alors, tu parlais tout à l'heure des idées qui sont proposées, des tendances qui sont insufflées, qui sont pensées notamment à gauche. Il y a aussi quelque chose que tu mets en avant, ce qui sera nécessaire, c'est aussi de sortir de ce que tu appelles la politique du ressentiment, qui est le lot commun des partis extrêmes. Quand tu parles de politique de ressentiment, de quoi on parle exactement? Est-ce que c'est quelque chose qui se rapprocherait des passions tristes telles que Spinoza les décrivait?
Oui, chez Spinoza, le ressentiment est une des passions tristes, mais celui qui a le plus gratté sur la façon dont le ressentiment désagrège la critique, c'est Nietzsche, dans le sens où pour Nietzsche, on peut dire que le ressentiment, c'est une force réactive, destructrice, parce que finalement, je crois, en ayant l'aigreur du ressentiment à l'égard de quelqu'un, que je l'atteins. En fait, je ne le touche pas du tout, mais je me désagrège moi-même, de l'intérieur, dans l'aigreur, et je me détruis moi-même. Bon. Il est caractéristique, disons, historiquement, des politiques d'extrême droite, que ce soit les politiques fascistes des années 20-40, ou ce que j'appelle aujourd'hui le post-fascisme, que ce soit Orban en Hongrie, ou Marine Le Pen en France, ou Zemmour.
Ou Meloni en Italie, par exemple.
Voilà. Post-fascistes, parce qu'ils sont en partie intégrés à des éléments de l'état de droit, ou des éléments républicains et démocratiques, alors que les fascistes des années 30 étaient souvent radicalement anti-républicains, anti-démocratiques. Bon. Donc il y a eu des déplacements dans les extrêmes droites. Mais historiquement, ces courants, justement, politisent l'aigreur, politisent le ressentiment, et en figeant sur des éléments, notamment évidemment la xénophobie, le racisme, qui vont cristalliser sur des boucs émissaires. Bon. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui avec les musulmans, avec les migrants, etc., dans le cadre de l'extrême droite classique. Sur Internet et les réseaux sociaux, on a quand même une renaissance aussi de l'antisémitisme. C'est plus dans les médias classiques aujourd'hui pour l'instant. Et l'extrême droite classique l'a mis de côté, mais ça s'est fortement développé grâce... disons, à quelqu'un qui a fait un rôle très important et très néfaste à partir des années 2000 sur Internet, qui est Alain Soral. Il y a une renaissance de l'antisémitisme avec des usages ambigus de la notion d'antisionisme et qui vont être bridés avec des formes, disons, d'antijudaïsme chrétien et quelque chose qui existe depuis les années 1830 en France, un antisémitisme anticapitaliste, notamment autour du fantasme de la famille Rothschild, qui renaît plus récemment aujourd'hui. Et donc, l'antisémitisme aussi est un point de fixation, pas au même niveau, parce que c'est pas dans les mêmes sphères. Hein. On verra pas ça, évidemment, à la télé ou dans les journaux, mais on verra ça sur les réseaux sociaux et sur Internet beaucoup. Et donc, on a cette politique de l'aigreur qui va se fixer, disons, sur des boucs émissaires. Une politique du ressentiment, elle n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire, elle part des souffrances, des frustrations qui existent. Elle va ne parler que de des souffrances et ces frustrations qui existent. Et elle va trouver un bouc émissaire.
C'est une réponse simple à des questions compliquées, voilà. On pourrait dire.
La gauche, normalement, historiquement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, en fait, elle essaye une politique de la justice ou de l'émancipation, c'est-à-dire, elle pose l'idée que on peut dépasser l'état de la souffrance et de la frustration vers la possibilité d'un monde meilleur, individuellement et collectivement. Et donc, on n'en reste pas au niveau de la souffrance et de la frustration et de l'aigreur. Mais c'est plus difficile à faire. Je me rappelle un entretien que j'avais fait dans les années 90 avec une ouvrière. Elle me raconte comment, dans les années 70, elle rencontre le marxisme dans son usine à cause de militants établis. Hein. C'était des étudiants, là, des étudiants des beaux-arts qui s'étaient établis en usine, maoïstes. Elle se mariera d'ailleurs avec un établi. Et elle me dit, la théorie de la plus-value de Marx, de l'exploitation capitaliste, a changé ma vie. Parce qu'avant, je croyais que j'étais de la merde. Et j'ai compris que j'étais la source de toute richesse. C'est ça, la différence entre l'extrême droite et la gauche. Hein. C'est le passage d'une politique du ressentiment à une politique de l'émancipation. Bon. Voilà. Et dans les productions des cultures ordinaires, on peut avoir des risques de cristallisation sur le ressentiment. Par exemple, si on prend un film comme le Joker, on a toute une grande partie du film, une analyse intéressante des fantasmes, des délires qui est produit par une situation sociale et qui produit le ressentiment. Mais à partir du meurtre à la télévision du personnage joué par Robert De Niro.
Robert De Niro, ouais.
Hein, on rentre dans quelque chose d'autre qui va déboucher sur des émeutes où le personnage de Joaquin Phoenix, on va le retrouver dans une voiture au moment des émeutes célébrées par tout le monde. On a plutôt une célébration acritique, contrairement au reste du film, de ça. Et autour de lui, qu'est-ce qu'il y aurait ? Il pourrait y avoir des Trumpistes comme il pourrait y avoir des insoumis, on ne sait pas. Parce que cette politique du ressentiment, elle ne fait pas la distinction entre ça et ça. Et donc, voilà. Donc, évidemment, moi, je vais chercher dans les cultures ordinaires ce qui permet de passer de la frustration et de la souffrance, des contraintes, la dureté de la vie quotidienne à cause de la misère sociale, à cause des contraintes de la domination masculine, de l'hétérosexisme, etc., du racisme, à la possibilité d'une émancipation. Et évidemment, en mettant de côté cette tentation qu'on trouve y compris dans les cultures populaires, comme le Joker, qui a été un grand succès, le risque de célébrer les politiques du ressentiment.
Alors, tu parlais également d'émancipation. Pour toi, il y a une dimension aussi, c'est que cette émancipation nous conduit à repenser notre définition de l'identité, puisque l'identité, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui, y compris des crispations identitaires. Il me semble que tu parles d'identitarisme. Toi, tu préfères une alternative à ça qui est, il me semble, influencée par la créolisation chère à Édouard Glissant. Et tu rattaches ça également à l'ouverture de lettres d'Emmanuel Levinas.
Oui. L'identité, c'est les repères que se constituent les groupes ou les personnes. Bon, c'est pas en soi l'identité qui me pose problème. Ce qui me pose problème et que j'analyse dans la grande confusion, c'est l'identitarisme. C'est-à-dire, l'identitarisme, c'est en fait une pathologie de l'identité. C'est-à-dire que on va figer les personnes dans une identité principale, homogène et fermée, on va les enfermer dedans, négativement ou positivement.
C'est-à-dire, on les essentialise un peu, on pourrait dire.
Positivement, on va célébrer l'identité nationale, donc on va dire qu'être français, c'est ma caractéristique principale, et on va la célébrer, ça c'est positivement. Et puis négativement, on va river négativement à l'identité musulmane une série de personnes, une vision fermée de l'identité musulmane menaçante, qui menacerait la République, etc. etc. Et donc on a, disons, l'islamophobie ambiante aujourd'hui. Bon. Face à l'identitarisme, il me semble que l'important et d'ouvrir les identités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a pensé comment l'émancipation, je dirais, depuis la fin du XVIIIe siècle, par exemple chez Kant, la définition qu'il donne des Lumières dans son célèbre article « Qu'est-ce que les Lumières ?» Bon, c'est la sortie hors de l'état de tutelle pour certaines traductions, hors de l'état de minorité. Bon, D'une certaine façon, c'est ça l'émancipation. On sort des tutelles, hein, des tutelles des rapports de classe, de genre, de race, etc. Et on construit une autonomie. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, avec un penseur comme Castoriadis, il va penser aussi, disons, l'émancipation comme autonomie individuelle et collective. Bon. Et avec les risques identitaristes aujourd'hui, parce qu'ils sont en France, mais ils sont aux États-Unis avec Trump. Là, il y a les élections en Turquie avec Erdogan. C'est des formes d'identitarisme différents. Il y a l'identitarisme nationaliste de la Chine capitalo-communiste. Il y a l'identitarisme de l'Inde de Modi, disons, anti-musulmane. Enfin, il y a des formes d'identitarisme très compliqué. Il y a un identitarisme qui progresse en Israël, hein, et qui est constante, pas simplement depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, mais travaillé par Netanyahou depuis un certain temps, et le fait que peu à peu les Palestiniens qui avaient une reconnaissance de droit institutionnel, qui votaient, ce qu'on appelait les Arabes israéliens, sont considérés comme une sous-catégorie. Et pendant tout un temps d'ailleurs, parce que ce n'était pas inscrit dans la Constitution, dans les textes de loi, il y avait deux langues qui étaient principales, c'était l'hébreu et l'arabe, et Netanyahou a fait voter une loi qui a fait de l'hébreu la langue principale, etc. Donc, a donné un coup dans ce sens-là. Donc, il y a énormément de formes d'identitarisme, hein, à travers le monde. Et par rapport à ça, le penseur martiniquais Édouard Glissant a une vision de la décolonisation différente de certains décoloniaux manichéens. C'est un décolonial ouvert, c'est-à-dire qu'il a remarqué, comme il dit, que l'ancien colonisé et le colonisateur, le risque, c'est qu'ils utilisent une figure proche, c'est-à-dire que chacun va s'appuyer sur une seule racine identitaire. Et lui, il veut rompre avec cette forme où l'ex-colonisé emprunte trop encore à l'ex-colonisateur, en ouvrant, en hybridant, en assumant l'hybridation. Hein. Sous une autre forme, la pensée d'Emmanuel Lévinas, qui est, elle, nourrie de judaïsme, va nous mettre en avant la question de l'ouverture de l'être plutôt que de sa fermeture autour d'une identité. Bon. Il a commencé très tôt dans les années 30 avec un très beau texte qui s'appelait « De l'évasion », hein, l'idée de la possibilité de sortir de l'être. Bon. Et ben, ça, on le retrouve dans les cultures populaires. Si on prend une excellente série qui a eu 3 saisons, American Crime, hein, qui est une série sur l'intersectionnalité, on peut dire les 3 saisons. La première saison est assez intéressante, je l'avais analysée pour le problème qui nous intéresse, parce que à la fois, elle montre que l'identitarisme des dominés, ce qu'on peut appeler un identitarisme inversé, comme le dit le sociologue Abdelali Hadjat, qui est un des grands analystes, disons, de l'islamophobie aujourd'hui et des mouvements issus de l'immigration, qui enseigne la sociologie aujourd'hui à Bruxelles, qui était mon étudiant d'ailleurs à Sciences Po Lyon. Il parle d'essentialisme inversé, qui critique dans certaines postures indigénistes. Il y a un identitarisme inversé. Cet identitarisme inversé, il peut avoir des points d'appui. La penseur postcoloniale indienne Spivak avait parlé d'essentialisme stratégique. C'est-à-dire qu'à certains moments, parfois, les dominés sont amenés à se ressaisir et à fermer un peu l'identité. Par exemple, « Black is beautiful ». Hein, bon. Voilà, donc on inverse par rapport au dominant. Elle présentait ça comme une forme stratégique ou tactique dans la lutte, dont il fallait pouvoir se débarrasser aussi. Ce que montre la première saison d'American Crime, c'est que oui, à la fois, on a le cas d'un toxicomane noir qui est accusé d'avoir tué un dealer blanc. Et donc la mobilisation que va effectuer sa sœur, qui s'est convertie à l'islam dans une communauté noire musulmane américaine autour d'une mosquée, va jouer un rôle, donc va permettre de mobiliser. Donc il y a un appui sur l'essentialisme stratégique. Mais le problème, c'est qu'il est amoureux d'une autre droguée qui est blanche, que sa sœur lui demande de quitter, parce qu'il faut séparer, d'une certaine façon, les blancs et les noirs. Et lui, il ne veut pas, parce que cet essentialisme stratégique, il écrase quelque chose. Il écrase quelque chose de la singularité des individus. Il enferme aussi dans une identité. C'est à la fois une ressource pour lutter, mais en même temps, c'est une ressource qui enferme. Bon. C'est aussi dans la chanson populaire, une chanson comme très, très connue encore jusqu'à aujourd'hui, de Jean-Jacques Goldman, « Emmène-moi ». Mmh. « Emmène-moi », c'est quoi ? C'est l'idée, je suis pris dans un cadre contraint socialement, une cité, la pauvreté, le racisme, etc. etc. Et il y a quelqu'un qui va m'aider à en sortir. Hein, mmh. « Emmène-moi », me sortir de ça, bon, de sortir de cet enfermement. Bon. Donc, il y a des ressources dans les cultures ordinaires pour essayer de briser, disons, cet enfermement identitariste, même quand c'est l'identitarisme inversé, hein, qu'utilisent parfois les opprimés pour lutter contre l'oppression.
D'accord. Y a quelque chose que je citais ton ouvrage La Grande Confusion, il y a quelque chose que tu analyses qui est pour toi une tendance qui est en train de s'imposer. Alors deux termes que tu mets en avant, c'est tout d'abord l'hypercriticisme et le confusionnisme, en fait le confusionnisme qui selon toi se nourrit de l'hypercriticisme. Quelle définition tu donnes à ces termes-là et finalement comment les cultures ordinaires ont pu être un vecteur de ça également?
Alors, le confusionnisme, c'est une tendance que je vois se développer en France à partir du milieu des années 2000. Le sarkozysme joue un rôle très important là-dedans, de bascule. D'abord Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis président de la République. C'est dans une phase de recul du clivage gauche-droite qui est en crise. Des interférences de plus en plus grandes et des hybridations entre des discours et des postures d'extrême droite, de gauche dite républicaine et de gauche dite radicale. C'est pas du tout l'idée que les extrêmes se rejoignent comme on entend parfois dans les médias, ça n'a pas de sens, ça traverse l'ensemble de l'espace politique. C'est aussi bien... François Bégodeau, gauche radicale, qui explique dans un livre que pour la précédente présidentielle, finalement, entre Marine Le Pen et Macron, il ne choisira pas, mais même finalement, il préfère Marine Le Pen. Il l'écrit comme ça. Et d'ailleurs, il dit aussi que finalement, il préfère Zemmour dans un débat qu'il voit à la télé face à Eindhoven. Parce qu'au moins Zemmour, il est pour la lutte des classes.
D'accord.
Et puis, peu de temps après, on voit le même Eindhoven, d'ailleurs, expliquer sur Twitter que s'il y avait un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il voterait Marine Le Pen. Voilà. Et ben, c'est ça le confusionnisme. Ça touche aussi bien la gauche radicale que ça concerne la fétichisation de la nation, le dénigrement du monde et de l'internationalisme, de l'Europe. Ça concerne... l'islamophobie, ça concerne la relativisation de l'antisémitisme et une certaine acceptation de l'antisémitisme. Ça concerne des tas de terrains que j'analyse. Hein, c'est un livre de presque 700 pages que j'analyse avec une centaine de locuteurs et qui peu à peu brouille les choses et dans un contexte de recul du clivage gauche-droite et de dynamique d'une pensée d'extrême droite, et de force électorale d'extrême droite, ça favorise l'extrême droite. Dans ces hybridations, il y a la dimension critique joue, mais une critique superficielle. C'est ça que j'appelle l'hypercriticisme. C'est-à-dire, c'est la critique qui paraît radicale, comme je le disais tout à l'heure, elle fait du bruit, ou elle utilise des mots de plus en plus gonflés, mais elle ne saisit pas grand-chose des racines, hein, de l'oppression. Et elle est notamment dans le récit conspirationniste ou complotiste. Hein. C'est-à-dire, c'est l'idée que nos malheurs existent principalement parce qu'il y a des méchants dans l'ombre qui manipulent.
On retombe sur l'idée de système dont tu parlais, qui serait un bloc homogène dont les racines seraient faciles à déceler.
Voilà, il y aurait un système, mais c'est plus qu'un système parce que il y a dans une certaine pensée critique l'idée d'un système, mais là c'est un système intentionnel. Donc en fait, c'est des méchants. C'est des manipulations intentionnelles. Et donc, c'est l'idée que si on se débarrasse de quelques méchants, Macron ou d'autres, et puis ça va baigner. Comme si on allait les racines de l'oppression de classe, de l'oppression de genre ou raciale, on allait l'enlever comme ça parce qu'on va supprimer un bonhomme. Bon. Donc, c'est complètement délirant du point de vue de la transformation sociale, de l'émancipation. Ça paraît critique. Et ça a peu à peu remplacé la critique structurelle, la structure des rapports de domination qu'on a hérité du marxisme, qu'on trouve aussi dans l'anarchisme, qu'on trouve dans les sciences sociales aujourd'hui à l'université, hein, chez Bourdieu et chez d'autres, dans les pensées intersectionnelles. Cette pensée critique structurelle, en fait, elle est amoindrie, elle est marginalisée dans les espaces publics, sur Internet, etc., sur Twitter, dans les chaînes d'information continue, pour cette idée que la critique, c'est mettre en cause des manipulations de personnes qui voudraient notre mal. Bon. Et donc, on a une critique, l'hypercriticisme, c'est une critique superficielle, hein, qu'on peut voir travailler dans la pensée d'extrême droite, aussi bien chez Soral que chez Zemmour, depuis assez longtemps, hein, quand on étudie, mais qui maintenant est assez commune. Et le problème, c'est que beaucoup de gens de gauche ne s'en rendent pas compte. Et finalement, emboîte le pas à ça, finalement, donne de la légitimité à ce qui va finir par les étouffer, et nous étouffer, par ailleurs, nous aussi. C'est ça. Alors, les cultures ordinaires, quel rôle là-dedans elles ont joué? Je dirais, moi, c'est moins les cultures ordinaires qui jouent un rôle là-dedans. Il y a différents éléments. C'est-à-dire que si on prend... un livre du sociologue Boltanski s'appelle « Énigme du complot ». Il fait une analyse.
Luc Boltanski.
Il fait une analyse de l'histoire de l'État et du capitalisme à travers notamment deux genres. Le genre d'espionnage, le roman d'espionnage, et le genre du roman policier. Mais le roman policier européen, pas celui que j'ai étudié moi, le roman noir américain. C'est-à-dire avec deux figures qui sont, pour la France, Maigret, et pour la Grande-Bretagne, Sherlock Holmes. Bon, ce qu'on appelle aussi le roman à énigme. Bon. Et il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que le conspirationnisme, comme schéma, il n'est pas si présent que ça dans le roman policier, originel. Il n'est pas d'ailleurs encore moins présent dans le roman noir américain. Et là où il va s'épanouir, c'est dans le roman d'espionnage. Et après, il va s'épanouir quand on va passer au cinéma ou aux séries, dans la forme espionnage du type James Bond, etc. Hein, bon. Donc là, on a typiquement cette forme, disons, hypercriticiste, conspirationniste, qui domine. Mais face à ça, on a une narration anti-conspirationniste qui se développe aussi bien au cinéma que dans les séries. J'avais analysé un film, c'est le premier film hollywoodien qui rompt avec le fait que Hollywood avait suivi Bush dans la guerre contre l'Irak, qui est dans la vallée d'Ella.
Film de Paul Haggis avec voilà. Tommy Lee Jones.
Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce film... c'est que c'est un père qui est un policier militaire à la retraite et qui, son fils, semble avoir disparu. Il n'a plus de nouvelles. Il était en Irak. Et donc, il va faire l'enquête. Bon. Au début, c'est quand même très strict, très patriotique, etc. Bon. Et il va faire l'enquête. Et au début, on va avoir ce que j'appelle dans le film ou les séries les intéressantes, le leurre conspirationniste. LEU2RE.
Au sens de fausse piste ou de
voilà.
Baron rouge.
Voilà. Donc, pareil, on pense évidemment qu'il y a un truc, il y a un complot du Pentagone, comme ça, comme justement dans les James Bond. Bon, hein, bon,
et ça rejoint aussi des récits qui avaient été émis à propos du 11 septembre.
Voilà. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont dans l'actualité, mais qui sont aussi dans les blockbusters. Parce que les récits complotistes sur le 11 septembre, ce qui est très étonnant, c'est que c'est souvent produit par des discours anti-américains, mais qui s'appuient sur les schémas les plus manichéens de la culture américaine, c'est-à-dire les blockbusters les plus nuls. Bon, hein. Je ne dis pas que les James Bond sont nuls, parce que les James Bond peuvent être très bons, mais pas sur ce plan du conspirationnisme, sur d'autres plans. Hein. Et donc, dans La Vallée des Lards, finalement, ça va être un leurre et on va découvrir, disons, les complications et la cruauté de la condition humaine par-delà ce récit conspirationniste. D'ailleurs, ça va amener Tommy Lee Jones à se détacher de son patriotisme original, à faire un déplacement très fort. Bon. Donc on a des choses comme ça, si on prend des grandes séries comme la saison 1 de True Detective, etc., on a à chaque fois des leurres conspirationnistes qui vont nous permettre, au contraire, de gratter les complications de la condition socio-historique de l'humanité. Et donc, souvent, dans le récit des séries noires ou des films noirs les plus intéressants, qui sont dans la tradition du roman noir américain qui naît dans les années 1920, on a une narration alternative même aux conspirationnistes, qui est d'ailleurs en congruence avec la narration anticonspirationniste des sciences sociales aujourd'hui. Donc contre les formes les plus schématiques qu'on voit aussi dans certaines productions culturelles.
D'accord. Tu citais tout à l'heure les grandes comédies américaines des années 30. Tu parlais de Lubitsch, je pense également à celle de Howard Hawks, notamment de L'impossible Monsieur Bébé. Il me semble que tu as été inspiré, tu as même écrit sur un philosophe important du XXe siècle qui s'appelait Stanley Cavell, puisque c'est lui qui avait beaucoup ausculté et analysé ces genres également. Lui, il parlait d'une philosophie allant vers l'ordinaire. Et également, il s'inscrivait dans le courant du perfectionnisme moral. Toi, c'est des choses aussi que tu as repris à ton compte, dont tu es parti ?
Oui, tout à fait. C'est ma collègue et amie, la philosophe Sandra Logier, qui est une des traductrices de Cavell en France et qui a introduit la pensée de Cavell, qui m'a permis de le découvrir. J'avais d'abord découvert Cavell parce que c'est un des grands lecteurs de Wittgenstein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et notamment, il a interrogé la question du scepticisme chez Wittgenstein et la façon dont Wittgenstein il est ni contre le scepticisme, ni pour, mais il développe une sorte d'inquiétude pour essayer d'éviter que le scepticisme prenne trop de place, tout en accordant une part au doute. C'est comme ça d'ailleurs que c'est grâce à Cavell que j'avais relu complètement une grande partie des chansons d'Eddie Mitchell à une époque. Pourquoi ? Parce que j'avais trouvé chez Eddie Mitchell quelque chose comme le vaccin du scepticisme ou le vaccin du désenchantement. C'est-à-dire qu'il faut intégrer une dose de scepticisme ou désenchantement pour résister au désenchantement. Bon. Et sur la question, c'est en même temps un grand philosophe du cinéma. Et on a publié il y a quelques années un livre qui était un de ses cours à Harvard.
Absolument.
Où il faisait une séance sur un grand philosophe comme Platon, Spinoza, etc. et une séance sur un grand film. Bon. C'était assez intéressant. Donc, c'était un des grands philosophes du cinéma et il a développé cette idée de perfectionnisme qu'il emprunte d'ailleurs à la pensée démocratique classique américaine un peu oubliée comme Emerson ou Thoreau, le penseur de la désobéissance civile. Et c'est cette idée de la possibilité d'une amélioration morale, éthique des personnes dans le cours de la narration, hein, d'un film par exemple, d'une série, qui est une amélioration individuelle qui pose aussi la question de la possibilité de l'amélioration de la collectivité. Hein, c'est le cas dans la Vallée des Lards. Hein, la transformation du personnage de Tommy Lee Jones, individuelle, elle est un appel à une transformation de la société américaine par rapport à ses erreurs dans la guerre contre l'Irak. Bon. Donc c'est ça, ce perfectionnisme. Et là, c'est vrai qu'il y a un fil très intéressant dans beaucoup de cultures ordinaires, et notamment au cinéma et dans les séries, de cette forme de travail. C'est le thème de la seconde chance qu'on trouve beaucoup là-dessus. Il y a, à mon avis, pour moi, je l'avais un peu aussi analysé, le meilleur Terminator 4, où là, on a le thème de la possibilité de la deuxième chance qui est fortement mis en avant, puisque finalement, celui qui a été un tueur, qui a été exécuté, mais qui a été transformé en presque totalité robot, finalement va se racheter pour sauver l'humanité à un moment donné, en se posant la question de savoir s'il a une deuxième chance. Bon. Et ce thème de la deuxième chance, il est très fort dans la narration américaine et il est aussi présent dans les formes françaises, hein, parce que en fait, la deuxième chance, elle a à voir aussi avec ce que Rousseau appelle la perfectibilité humaine. Hein. C'est-à-dire l'idée que si on a fait une saloperie, et même si on reconnaît que c'est une saloperie, on n'est pas enfermé à vie dans cette saloperie. Mmh. Bon. C'est ça qui fait que la gauche était contre la peine de mort et qu'elle proposait, alors certains sont contre la prison, comme certains anarchistes, d'autres sont pour une transformation de la prison, mais sont pour des transformations avec l'idée, disons, que on peut reconnaître une saloperie, après le point de savoir comment on la traite, mais il y a la possibilité d'une deuxième chance. Bon. Et ça, c'est très fort, disons, dans les cultures ordinaires aussi. Et ça pose à la fois le rapport entre l'autonomie individuelle et la collectivité, puisque à la fois l'avenir de chaque individu dépend de l'avenir de la collectivité, mais l'avenir de la collectivité dépend de chaque individu. C'est ça la désobéissance civile. C'est-à-dire, même si je suis seul à dire que telle action de mon gouvernement va à l'encontre des valeurs de ma société, même si je suis le seul, et je fais comme Thoreau, c'est-à-dire qui était contre le maintien de l'esclavage dans certains États du Sud et contre la guerre au Mexique, c'est comme ça qu'il invente la désobéissance civile moderne, puisqu'il arrête de payer ses impôts et il va en prison. Bon. Mais même s'il est seul, l'avenir de la collectivité dépend de l'individu aussi. Et de l'individu qui peut aller, contrairement à toutes les bêtises qu'on entend dans les médias aujourd'hui, où critiquer la loi, ça serait le terrorisme, etc., etc. Non, on va contre la loi pour sauver la justice. Bon. Hein, bon. Donc là, il y a une question importante qui relie autrement l'individu et le collectif contre ce qui malheureusement domine à gauche depuis, je dirais, la guerre de 14, avant c'est différent chez Jaurès, dans l'anarcho-syndicalisme, etc. Bon, dans des courants antérieurs, c'est différent. Chez Marx aussi, qui est pour moi un auteur individualiste, c'est que avant la 14-18, dans la pensée critique, on associe autonomie individuelle et solidarité, collectivité. Un des grands penseurs de la CGT libertaire, hein, d'avant la guerre de 14, Émile Pouget, dans sa brochure célèbre « L'action directe », il y a un chapitre qui s'appelle « Exaltation du moi ». Mais l'exaltation du moi, il n'est pas contre la solidarité, puisque c'est une action syndicale pour la solidarité. Après, a dominé ce que j'appelle le logiciel collectiviste, c'est-à-dire l'individu doit être soumis au cadre collectif. Et la gauche a été un peu aplatie à partir de la guerre de 14-18, et l'émergence des grands partis de masse, hein, parti socialiste, parti communiste. Avant, les partis, les organisations sont relativement petites encore. On a eu la domination du logiciel collectiviste qui domine toujours, parce que dès qu'on voit dans la pensée de gauche individualiste, tout ça c'est mal, ça détruit le collectif, etc. Il faut faire prédominer le collectif. Non, la désobéissance civile, ça introduit au contraire une autre pensée du rapport entre individuel et collectif. Et c'est ça que nous permet les cultures ordinaires, parce que les cultures ordinaires, elles disent souvent « je », elles voient des individus, et on voit l'articulation. Même la pensée communiste, qui a été très collectiviste dans les années 50, 60, 70 encore, dans ses discours officiels. Eh bien, à l'époque, la culture communiste, ce n'est pas simplement les discours du Parti communiste, à l'époque où le Parti communiste est le parti dominant à gauche. Il a pu monter jusqu'à 25% des voix en France. Bon. C'est Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, il y a le jeu. C'est-à-dire, il y a les individualités. Mamoum, il y a une chanson sur les grèves dans les magasins, les demoiselles de magasins, etc. C'est des individualités qui s'accordent avec du collectif. C'est-à-dire, dans la culture ordinaire communiste, il y avait des formes de lien entre le « je » et le « nous » beaucoup plus subtiles que dans le discours politicien communiste, déjà.
Mais c'est surtout qu'il y a une différence à faire aussi entre individualité et individualisme.
Oui, ça dépend ce qu'on appelle individualisme. C'est-à-dire que si on appelle individualisme, narcissisme ou égocentrisme, oui. Si on appelle individualisme le fait qu'une des valeurs principales de la société, c'est l'individu, et que ça doit être mis en tension avec l'espace commun nécessaire, si l'individualisme, c'est l'individu sans l'espace commun, oui, c'est un problème. Mais si l'individualisme, c'est de dire que l'autonomie individuelle, l'individualité, comme valeur, elle est au même niveau que l'espace commun. Et il doit nécessairement y avoir des tensions et des articulations entre les deux. Si c'est ça, notre horizon d'émancipation, à la fois individuel et collectif, c'est l'horizon d'émancipation de Marx, c'est l'horizon d'émancipation de Bakounine, qui n'écrase pas autour du collectif ni l'un ni l'autre. Alors dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est un individualisme solidaire. Ce que j'appelle aussi social-démocratie libertaire. C'est-à-dire que ça vise à associer des choses qui sont habituellement disjointes.
D'accord. On va bientôt arriver malheureusement au terme de cette émission. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux partager avec nous, avec notre audience, une recommandation culturelle qui t'est chère, que ce soit un livre, un film, une œuvre ?
Oui, tout à l'heure, on a parlé des politiques du ressentiment et la grande résistance par rapport à ça. Le grand film de l'époque, comme le film émancipateur, c'est The Batman de Matt Reeves, 2022. Pourquoi ? Parce que, contrairement justement aux ambiguïtés du Joker, dans The Batman, au début, évidemment, il y a la souffrance, il y a le ressentiment, il y a la perte des parents, comme dans tous les Batman. Il y a la vengeance. Et d'ailleurs, la force du film... On le trouve que, d'après les spécialistes, que dans quelques premiers albums de Batman, c'est pas homogène, un des surnoms de Batman, c'est Vengeance aussi. Bon, et le film reprend cette idée. Donc, la vengeance. Bon. Et puis, il est confronté au tueur fou, hein, qui a l'air d'aller dans le même sens que lui. D'ailleurs, ce tueur fou pense qu'il va dans le même sens. Hein, parce qu'il va dénoncer les turpitudes et les corruptions de l'establishment de Gotham City. Et il va les tuer, d'ailleurs. Hein, bon. Et il y a un trouble. Est-ce que c'est la même chose ? Et tout le film vise à la dissociation des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se rend compte, Batman, le personnage, que la justice et la vengeance, c'est radicalement différent. En fait, que... Il y a quand même, à un certain niveau, une proximité, parce que dans les deux cas, ça s'appuie sur la souffrance, sur la frustration. Mais après, il y a une dissociation forte entre une politique d'émancipation de la justice et une politique du ressentiment. Et là, on a, par rapport à toutes les bêtises qu'on entend dans l'espace public aujourd'hui, en France et ailleurs, on a des éléments de la solution politique qui sont dans ce film. Donc c'est quand même le grand film de la période, il me semble.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Philippe Corcuff d'être venu parler de plein de choses. En fait, les cultures ordinaires, le rôle qu'elles peuvent avoir à jouer dans notre émancipation, dans cet horizon politique qui peut être aussi à interroger et à reconstruire. Donc merci beaucoup.
Merci pour cette invitation.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.